Vous êtes sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou radiocampustour.com pour les podcasts et nous écouter en ligne. Et vous écoutez Ménage-toi Simone, le premier épisode de la saison 3.
Ah, les bonnes femmes. Je préfère voir tes fesses que ta gueule. Ils sont plus agréables à regarder.
Justement, est-ce que je pourrais avoir une autre de vos petites putes asiatiques? La mienne est morte.
Ménage-toi Simone.
Ménage-toi Simone, c'est le magazine de l'actualité femmes-hommes réalisé par le réseau de Simone. Des membres du réseau de Simone, et c'est bien sûr sur les ondes de Radio Campus Tour. Premier épisode de la saison 3, on revient donc pour le numéro de octobre 2020, après 3 mois d'absence, on est parti en vacances, des vacances bien méritées, bien reposantes surtout, parce que c'est fatigant de parler de toutes ces mauvaises nouvelles des fois à la radio. Mais là on revient en force et plus motivé que jamais à vous proposer une nouvelle saison, donc sur la période 2020-2021, pour au moins, donc on est parti pour 8 numéros. Numéro 9. On verra en fonction de nos disponibilités aussi. Pour ce premier numéro de la saison 3, j'accueille Anaïs. Et vas-y.
Bonjour.
Et Louise.
C'est moi. On a perdu un peu nos habitudes. Il faut qu'on se remette dans le truc.
C'est vrai, c'est toujours compliqué. Et Louise aussi.
Et ben bonjour.
C'est avec vous qu'on avait clôturé la saison 2 au mois de juin 2020.
Tout à fait.
Et on reprend avec la même équipe, à la différence qu'on accueille une nouvelle personne, c'est Paul.
Bonjour à tous.
Paul, on est très heureux, très heureuse de t'accueillir. Tu es le volontaire service civique de cette année, Obige.
Exactement.
Avec Sarah, qu'on aura aussi l'occasion et le plaisir d'inviter un peu plus tard, peut-être dans un prochain numéro. Donc, c'est parti pour cet épisode d'octobre 2020, avec une trame classique, la trame que les auditeurs et les auditrices connaissent déjà. Donc, on commence par revenir un petit peu sur l'actualité. Il y en a, ça va être très vaste puisqu'on va parler de choses qui sont passées sur ces 3 derniers mois. Moi, je me suis permis de choisir quelque chose qui date de juillet dernier. On va un petit peu se remettre à jour. Et puis, comme d'habitude, vous connaissez, on va choisir une de ces actualités et on va la développer au cours d'une discussion un peu plus longue après la première pause musicale. C'est parti, pourquoi pas faire chronologiquement? Du coup, c'est moi qui commence.
C'est exactement ce que j'avais proposé.
Ok.
Les grands esprits se rencontrent.
Ah là là, incroyable.
Alors, moi, j'avais absolument envie de parler de ça à la radio, même si c'est une actualité qui est tombée au mois de juillet. Je voulais parler du remaniement ministériel.
Ah.
J'en pouvais plus au mois de juillet. J'étais loin de chez moi, loin de Tours, voilà. Et pourtant, m'est parvenue cette actualité, donc remaniement ministériel et nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Et voilà, ça m'a fait mal, ça m'a fait chier. Et surtout, là, je suis rentré et puis la vie continue. Mais pourtant, à chaque fois qu'il prend la parole et qu'il a envie, qu'il s'exprime sur quelque chose, j'arrive pas à le prendre au sérieux. Il est là et il y a eu beaucoup d'actualités depuis cette rentrée et à chaque fois, j'arrive pas. Il parle de les consommateurs de cannabis, les racailles, les personnes, qui s'excluent de la République, j'en sais rien tout ça. Et à chaque fois, je sais pas si c'est ça ce qu'on appelle la cancel culture ou j'en sais rien, mais moi je le laisse sur le côté et je fais mais putain. Et ça m'embête vraiment, puisque c'est le ministre de l'Intérieur, et j'imagine que sa fonction implique un peu d'autorité, je vais le dire comme ça.
Pour juste rappeler, du coup, peut-être pour les gens qui ne le savent pas, Monsieur Darmanin a été accusé d'agression sexuelle, ou même de viol, je crois. Mais bref, du coup, c'est donc ça qui, je pense, ici nous pose problème, parce que visiblement... cette fameuse légende comme quoi les accusations d'agression sexuelle ruineraient la carrière d'un homme, visiblement non, puisque le monsieur est quand même ministre de l'Intérieur, hein, on est quand même sur une fonction de haut de gamme, quoi. Donc, moi après je sais que de base j'ai un rapport au ministre de l'Intérieur un peu compliqué en général, quel qu'il soit.
Ouais.
Mais ouais, moi je suis assez d'accord avec toi Merlin, j'ai tendance à pas du tout le prendre au sérieux et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes pour le coup, ce qui me rassure un petit peu, même si ça change rien au fait qu'il est absolument pas, on lui retire absolument pas ses fonctions, donc ça sert pas à grand chose de, voilà. Moi j'avais manifesté, il y avait une petite manifestation illégale. Je crois que je suis en train de m'exposer. J'espère que la police n'a pas débarqué chez moi. Mais il y avait eu une petite manifestation organisée notamment par des collectifs féministes à Tours et en toute la France en réalité pour justement manifester contre sa fonction, quoi. Mais bon, ça n'a pas changé grand chose, comme souvent les manifestations malheureusement. Mais oui, c'est assez compliqué. En effet, de le prendre au sérieux, sachant que si vraiment on veut parler de racailles, de justice, etc., il devrait peut-être d'abord balayer devant sa porte avant de prendre des mesures pour les autres, quoi.
Et on rappelle quand même la lutte contre les violences faites aux femmes, grande cause du quinquennat.
Voilà.
On se demande ce que ça aurait été si ça n'avait pas été la grande cause du quinquennat.
Oui, voilà,
ça.
Voilà. Donc non, c'est très bien d'en parler, même si bon, en effet, je crois, la vie continue et c'est ça qui est dur aussi, je pense, avec ce genre d'événement, c'est que c'est extrêmement dur de lutter contre quand on est des petites gens. Mais et voilà, le problème c'est que ça reste lui qui prend des décisions extrêmement importantes pour notre pays.
Oui, c'est ça.
Et alors que lui-même, si on prend le sens du terme délinquant, c'est un délinquant puisqu'il a commis un délit, même plus. Enfin, pas un crime, mais un délit quand même. Donc c'est un délinquant, mais c'est quand même lui qui gère les délinquants. Donc bon,
ouais.
Voilà, c'est un peu compliqué, je suis assez d'accord.
C'est ça, et l'idée c'est que je l'évoquais, moi j'arrive plus du tout à le prendre au sérieux, mais l'idée c'est que ça n'enlève en rien de son pouvoir et de ses capacités à agir et à faire son métier de ministre de l'Intérieur et puis sa petite vie aussi bien tranquille. Donc comme tu l'as dit, en fait, justement on en parlera, ça rejoint peut-être un petit peu si on extrapole la discussion qu'on a retenue pour cet épisode, mais le fait que voilà, les arguments de dire que les accusations de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle nuisent aux hommes, ça reste à voir, ça reste à démontrer. Voilà pour mon actu. Oui, approche-toi du micro.
Si ça n'ouvre pas, moi je vois ça comme un débat plus large, est-ce qu'une accusation d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, c'est susceptible, est-ce que ça doit... écarter quelqu'un de sa vie professionnelle, de ces choses-là? Est-ce que quand c'est pas une condamnation, c'est juste une accusation, à quel point est-ce que ça doit écarter quelqu'un de sa profession, de ce qu'il voudrait faire, et à quel point on peut l'accepter? Moi, je vois ça, pour moi, dès que c'est quelqu'un qui est public, une personnalité publique, ça doit être écarté parce que ça donne un mauvais exemple.
Ouais.
Mais dans la vie de tous les jours, j'ai du mal à savoir, parce que quand c'est une accusation, bah, après il y a tout ce qui rentre en termes de justice,
ouais.
Y a la présomption d'innocence, il y a tout ça. Mais là-dessus, justement, c'est compliqué de pouvoir poser...
C'est tout le débat que ça a ramené sur la scène médiatique. Mais en effet, oui, enfin, nous aussi, on a un avis, une opinion personnelle, et puis aussi qu'on partage au sein du réseau de Simone. C'est vrai que ce qui est vraiment problématique, et tu l'as évoqué, c'est quand c'est une personne qui représente quelque chose de plus grand qu'elle, là en l'occurrence la République française. et voilà, je pense, Louise, tu voulais
je suis tout à fait d'accord, moi aussi je pense que c'est particulièrement quand c'est une personne publique qui en effet soit représente en effet un gouvernement, un ministère, etc., mais aussi quand c'est une personne qui va être connue. On avait parlé, on avait fait toute une discussion sur Roman Polanski.
Oui.
Voilà, ça rejoint les mêmes problématiques. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, d'une manière générale, je pense pas qu'il faille évincer les gens, enfin qui que ce soit en fait d'une société et donc forcément du monde du travail. Après, c'est dans quelle mesure on peut donner du pouvoir en fait à ces gens-là. Mmh. C'est surtout ça en fait le problème, c'est le pouvoir qu'on va donner à des gens qui sont accusés de choses assez graves et terribles, quoi. Donc Mais c'est un débat qui est ouvert et qui le sera pendant longtemps, je pense, de toute manière.
Et d'ailleurs, je vous renvoie à notre émission de mars 2020. C'est sûrement la seule chose qui va persister, qui va perdurer, qui va connaître la prospérité dans ce numéro de mars 2020 où il y a beaucoup de choses qui sont devenues obsolètes très rapidement. ce qui reste et ce qui est intéressant de revenir écouter, c'est donc notre discussion qui concernait Roman Polanski et puis la cérémonie des Césars 2020. Et tout ce qui est justement présomption d'innocence et l'indulgence de la justice face à des personnes connues et reconnues, notamment pour des talents artistiques. Ce qui ne fait pas la part de choses concernant leur responsabilité civile, on va dire.
Ouais, je voulais juste ajouter deux petites choses. Alors déjà, par rapport à Roman Polanski, on n'est plus au niveau de la présomption d'innocence puisqu'il a été condamné pour ce qu'il a fait.
Il
fuit la justice depuis 40 ans, ça c'est la première chose. Et pour ce qui est de la présomption d'innocence... justement, ça fait du lien avec mon actualité, mais je ne vais pas vous dire tout de suite. Mais Pomme avait publié sur son compte Instagram un post que j'avais trouvé assez juste qui disait que invoquer la présomption d'innocence, ça pourrait marcher dans une société parfaite où la justice faisait son travail et que tout fonctionnait bien. Ce qui est hyper délicat, c'est pour les questions de violences faites aux femmes, violences sexuelles, viols, tout ça. En fait, il y a très très peu de condamnations et la justice ne fait pas son travail. Donc invoquer cet argument-là, du coup, ne fonctionne pas, en tout cas à mon sens.
Pour régler les problèmes de justice avant de pouvoir invoquer ça, c'est sûr qu'il y a des choses à régler de ce côté-là avant de parler de présence. C'est sûr.
Et on n'est pas sorti. Bon, on passe 10 minutes sur une actu, on perd pas les bonnes habitudes.
On s'est pas vu depuis longtemps.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça.
Je propose toutefois d'enchaîner avec donc l'actualité de Louise dans l'ordre chronologique. C'est la tienne qui vient ensuite.
Peut-être, du coup, je ne suis pas prête. J'arrive.
Ça date oui, du mois de pardon. Septembre, j'ai resitué.
Tout à fait. Moi, je voulais parler de la polémique qu'il y avait eu autour de la tenue républicaine à l'école. Voilà, donc ça commence à dater un tout petit peu parce que ça date en réalité du 15 septembre. Il y a eu un appel par des jeunes filles en France de s'habiller de manière comme elles le voulaient, en fait, pas forcément de manière contraire à leur règlement, mais... Par cet appel, elle sous-entendait de voilà, venir s'habiller avec n'importe quel habit que le règlement de leur établissement l'autorise ou pas. D'ailleurs, les règlements sont assez flous sur ces questions-là en réalité. Souvent, il y a marqué « tenue correcte et exigée ». Correcte.
Qu'est-ce que correcte?
Voilà, exactement. Et donc, à cette question, qu'est-ce qu'une tenue correcte? Notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dit qu'une tenue correcte, c'était une tenue républicaine. Bon.
Vachement plus clair.
Beaucoup plus clair. Qu'est-ce qu'une tenue républicaine, donc parce que, bon, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport au fait que Marianne, le symbole de la République, était souvent représentée seins nus. Alors, peut-être venir seins nus au collège et au lycée, je ne sais pas. Il y a eu surtout encore un enveniment de cette polémique, parce qu'il y a Marianne qui a... Le journal Marianne, pardon, qui a... pas la figure de la République, non. Du coup. Le journal Marianne qui a publié un sondage qui illustrait donc par des images assez sexualisantes le corps des jeunes filles qui, rappelons-le quand même, ces jeunes filles sont mineures. Hein, voilà, jusqu'à la toute fin du lycée, la plupart du temps, on a moins de 18 ans. Donc voilà, représenter ces jeunes filles... de manière aussi sexuelle, c'est juste pédophile, en fait. Voilà, mettons, appelons un chat un chat. Et en plus, les résultats de ce sondage étaient assez effrayants, donc, parce que, en majorité, ce sondage condamnait donc le no bra, ce qu'on appelle, donc le fait de ne pas porter de soutien-gorge, les décolletés plongeants et les crop tops. Par contre, ils étaient plutôt favorables à ce qu'on laisse apparaître les bretelles de soutien-gorge. Donc tout va bien.
Ouf.
C'est bon, on a le droit de laisser dépasser ces bretelles de soutien-gorge. En plus, c'est assez aberrant parce que ce sondage, la plupart des gens qui étaient contre à chaque fois que la majorité l'emportait, c'était des personnes de plus de 65 ans qui ont quand même, pour la plupart, n'ont pas mis les pieds dans un établissement scolaire depuis, je pense, des dizaines d'années. Donc moi, ça me démoralise un petit peu, en réalité, parce qu'en fait, c'est pas un débat qui est juridique, on n'est pas sûr est-ce que les élèves respectent le règlement ou pas, c'est un jugement qui est moral. Voilà, on condamne l'attitude des filles, comme d'habitude, plutôt que de celle des garçons, parce qu'il y a eu aussi tout un débat autour du fait que, en fait, ça déconcentrait les garçons qui n'étaient en pleine poussée d'hormones et qui ne sont pas capables de se contrôler à cet âge-là, visiblement. Donc, ce qui est assez inquiétant aussi sur l'image qu'on a des jeunes garçons, je trouve, mais bref. Donc, en fait, c'est parti sur un débat sur des valeurs pseudo-républicaines de, en gros, une femme, pour être respectée, doit se cacher, comme d'habitude. Ou ne pas se cacher, hein, parce qu'il y a aussi tout le débat si une jeune fille met le voile. Bon, bref, c'est toujours la même chose, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, quoi. Ouais. Donc voilà, conclusion, il n'y a que Marianne qui a le droit d'être seins nus. Voilà, ce sera ma conclusion à moi. Mais voilà, je pense que j'ai été assez, par contre, agréablement surprise de voir qu'en tout cas, dans mon entourage, même les gens avec qui je ne suis pas toujours d'accord sur des questions politiques, étaient assez effarés aussi de voir que, déjà, on faisait tout un plat d'un truc qui avait assez peu d'importance en réalité, et que... J'ai l'impression que la plupart des gens, en tout cas dans mon entourage, après c'est pas forcément représentatif de toute la France, hein, mais étaient plutôt favorables à ce que les jeunes filles s'habillent comme elles veulent ou comme elles ne, enfin voilà, ouais. comme elles veulent en fait.
Ben c'est ça, c'est à la fois l'actualité et puis le sondage aussi qui
ouais,
nous a marqué.
Ça a envenimé les choses, ce sondage assez abjet.
Bien sûr, et puis ça permet aussi, enfin moi personnellement je me suis remis en question sur comment je devais appréhender une information comme celle-là. Voilà, parce qu'il s'agit d'un sondage avec une proportion, une proportion de la population française. Dans le même genre, on a un autre sondage sur un tout autre sujet qui est apparu dans les mêmes périodes concernant la réhabilitation de la peine de mort. Et ce sondage-là disait qu'il y avait plus de la moitié des Français qui étaient d'accord pour une réhabilitation de la peine de mort. Et pour autant, après, il y a eu des médias qui sont chargés de décrypter ça, de dire un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière ce sondage, qu'est-ce que ça voulait dire, et surtout quels étaient les risques pour la démocratie française. Est-ce que malgré le fait que la moitié des personnes, selon ce sondage, seraient d'accord pour réhabiliter la peine de mort, est-ce qu'il va y avoir des conséquences légales? Et non, en l'occurrence, voilà, il y a d'une part l'opinion publique et puis d'autre part un système démocratique et législatif qui fait qu'on va quand même être protégé de certaines choses, et notamment sur, bah, sur le, des injonctions vestimentaires et de comment on gère son, son propre corps. Voilà, même si ce sondage est très pessimiste par rapport à ce que j'imaginais et ce que j'aimerais personnellement, il y a quand même voilà, de bons espoirs de se dire qu'on peut encore faire ce qu'on veut de son corps. Dans une certaine mesure, c'est encore vachement plus compliqué pour les femmes que pour les hommes, encore vachement plus compliqué pour les personnes musulmanes ou autres que les autres. Et, mais voilà, il y a quand même une mesure à garder par rapport à un sujet, un sondage comme celui-là, et comme par rapport à la plupart des sondages qui sortent et qui, des fois, ont des chiffres assez affolants. Mais ouais, par rapport à ça, par rapport à la première, le cœur du sujet, c'est-à-dire bah, justement ce débat sur les crop tops et tout, et les mini-jupes, il y avait justement au même moment, je crois que c'était en Irlande ou quelque chose comme ça, où des garçons au collège sont venus tous habillés avec des jupes pour dénoncer ça justement, et le fait est que bah, c'est une bonne nouvelle en soi, mais c'est vrai qu'on a énormément relayé cette info que ce sont des garçons qui se sont mobilisés pour la cause féministe une nouvelle fois, alors que bah, il suffit peut-être d'écouter les femmes et puis on gagnera peut-être beaucoup de temps.
On est content hein, qu'ils se mobilisent, c'est pas du tout la question, mais c'est vrai que souvent c'est adulé, c'est admiré qu'un garçon ou qu'un homme voilà, se positionne comme étant féministe.
Et quand c'est les femmes, on s'en fout.
C'est les femmes, soit on s'en fout, soit c'est ridicule ou c'est trop, quoi. Vous n'avez pas le droit d'être en colère.
Ouais. Voilà pour cette actu. On passe à toi, Anaïs.
Je termine donc. Oui. Moi, je voulais vous parler de ce qui s'est passé au mois de septembre pour Angèle. Voilà. Angèle, on peut aimer ou pas ce qu'elle fait musicalement, ce qui lui est arrivé au mois de septembre. Je trouvais ça très injuste et ça m'a mise très en colère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, début septembre, il y a une jeune femme de 23 ans qui a publié sur les réseaux sociaux des captures d'écran d'une conversation qu'elle avait eue avec Romeo Elvis, qui est donc rappeur et accessoirement le frère d'Angèle, dans lequel, en fait, ces captures d'écran établissaient clairement que ce dernier l'avait agressée sexuellement dans une cabine d'essayage d'une friperie à Bruxelles en mai 2019. À la base, en fait, elle voulait pas spécialement rendre public ce qui s'était passé, mais vous avez sans doute vu aussi que début septembre, il y a eu des révélations assez terribles sur un autre rappeur qui s'appelle Moa La Squale, et du coup, à la suite de ça, cette jeune femme a décidé de parler, tout simplement. Donc là-dessus, il y a eu un message d'excuse de Romeo Elvis qui a regretté d'avoir utilisé ses mains, je cite, de manière inappropriée sur quelqu'un, croyant répondre, je cite encore une fois, à une invitation qui n'en était pas une. Il a dit regretter sincèrement ce geste et surtout réitérer publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois, en privé et en personne. Donc là, on se dit que bah, du coup, c'est Romeo Elvis qui va s'en prendre plein la gueule. Et bah, en fait, non, raté, c'est pas lui. Donc c'est Angèle qui, du coup, s'est pris une vague de harcèlement vraiment terrible. Elle n'a rien fait, mais il y a quand même des gens qui sont venus lui dire genre, ah, ah, là, on t'entend moins à la ramener. Parce que bon, il faut savoir qu'Angèle a quand même eu des prises de position récentes clairement féministe, voilà. Bon, certains la trouvent mainstream, mais elle a des prises de position féministes qui sont tout à fait légitimes. Il y a carrément un hashtag qui a été créé, hashtag balance ton frère.
Ouais.
Voilà, donc ça m'a mise très en colère parce que c'est pas juste en fait que du coup Angèle qui porte un message féministe, on lui demande de rendre des comptes sur ce qu'a fait son frère, elle est pas du tout responsable de ça. Et du coup, il y a Titu Lecoq qui a une newsletter que je reçois toutes les semaines. Je vous invite à vous y abonner, elle est vraiment super. Et du coup, elle a très bien résumé ce que je pensais. Donc elle nous dit, d'abord précisons, elle n'est pas attaquée par des internautes. Quand on regarde un peu précisément, elle est harcelée par des hommes qui relaient tous les discours antiféministes. Sur Instagram, beaucoup de ses comptes n'ont aucune publication ni aucun abonné. Ils ne servent qu'à mener ce genre de raid pour harceler. Ils ne sont donc représentatifs de rien d'autre que de la mouvance masculiniste. En conséquence de quoi, il est à peu près inutile d'essayer de leur expliquer qu'elle n'a pas à être tenue responsable des actes de son frère. Il s'en contrefoute, comme il se contrefoute de Romeo Elvis et de la question des violences sexuelles. Ce qui les intéresse, c'est de casser de la féministe, d'en coincer une et de lui mettre la pression, l'emmerder, la pousser à bout parce qu'elle est une ennemie. Voilà, et je pense que ça fera une très bonne transition avec la discussion que nous aurons juste après.
Exactement, voilà, ça tombe bien aussi qu'on t'entende en dernière, Anaïs, puisque c'est cette actualité qu'on a choisie pour développer ça sur un sujet de discussion un peu plus large, un peu plus vaste. Ça va durer une trentaine de minutes et puis ça sera juste après une première pause musicale. La première pause musicale, c'est pour ce numéro, on a une sélection, une programmation musicale assurée par Anaïs. On va écouter Cadillac en premier, Tu veux nous parler un peu de ce son ou
Bah, j'aime beaucoup ce son. Voilà.
Et bah, bonne écoute, restez à l'écoute de Radio Campus Tour. On revient juste après. C'est Coucou de Cadillac.
Ils disent le monde est à toi. Je crois que le monde est à eux. Regarde ce qu'ils en ont fait, mais ouvre les yeux. Je m'en ta parité. J'ai pas besoin de comparer. Un, je suis magique. Deux, je donne la vie. Trois, je gère le budget. J'irai au plus, je l'essaie. Mec, je suis déterminé à ouvrir la voie pour les filles comme moi. C'est mon but, je le sais. Tu pourras pas m'arrêter. J'ai trouvé toutes les clés.
De Cadillac sur Radio Campus Tour. C'est Cadillac, on le précise, avec des K. K-H-A-D-Y-A-K. Et donc, ce n'est pas le chanteur de Stupéflip, mais bien Cadillac. Moi, c'est la première fois que j'écoute une chanson d'elle. On vous conseille sa pochette d'album qui est vraiment super chouette. Ton micro est ouvert, Anaïs, si tu veux faire un commentaire.
Non, juste, il y a des vulves sur sa pochette de CD. Et je la trouve très belle. Voilà.
Excellent. Voilà. Et on espère découvrir plus de sons à l'avenir et puis pourquoi pas la reprogrammer dans notre émission sur Radio Campus Tour. Notre mission, en l'occurrence, je le rappelle, c'est Ménage-toi Simone, le début de la saison 3. On est en octobre 2020, on enregistre mercredi 21 pour une diffusion samedi 24 octobre, si tout se passe comme prévu. Donc, la suite de Ménage-toi Simone, on vient de balayer les actualités de ces 3 derniers mois et on va discuter un peu plus longuement donc, du sujet qu'on a retenu pour ce numéro en particulier. Donc, on part de ce qui est arrivé à Angèle. Et voilà, du hashtag balance ton frère, en l'occurrence, avec les affaires qui ont touché Roméo Elvis, pour un peu plus largement parler de la manière dont sont généralement décrédibilisées les féministes, et où aussi toutes les techniques qui sont, toutes les ficelles qui sont tirées pour que finalement, en fin de compte, au final, à chaque fois, ce soit les hommes et une pensée plutôt masculiniste qui occupent l'espace médiatique. T'as rappelé les faits, tu l'as très bien rappelé. Moi, le premier truc qui m'impacte, c'est le fait qu'au début, ça a commencé sur Twitter et sur les réseaux sociaux avec le hashtag balance ton rappeur, qui était un petit peu une déclinaison de balance ton porc, de MeToo. Il y a eu un petit épisode de balance ton YouTuber, et puis voilà, chaque
catégorie de métier,
c'est ça.
Chaque profession y passe.
Il passe vraiment dans la continuité de ce qu'a enclenché MeToo.
Est-ce que ça voudrait dire que partout où les hommes sont, il y a des agressions sexuelles. Surprise.
Est-ce que ça
dans
veut dire
tous
que...
les métiers, il n'y a pas de métier épargné. Je suis vraiment étonnée.
Wow. Et ouais, moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait que cette nouvelle voie, cette nouvelle porte qui s'ouvrait pour que les victimes d'agresseurs issus du milieu de la musique, et en l'occurrence du rap, finalement, ce nouveau hashtag soit balayé en deux par « Balance ton frère », qui catégorise et qui cible particulièrement Angèle. Et avec toute la campagne de harcèlement qui s'est pris, on appelle ça des raids, on appelle ça du shitstorm. Mais le problème est le même, en fait, c'est que bah, au final, c'est quand même des hommes et des masculins qui reprennent la voix.
Bah, en fait, d'une manière générale, les femmes et particulièrement les féministes finissent toujours par être responsables de leurs conditions et de ce qui leur arrive. Alors que vraiment, là, rappelons-le, Angèle, elle n'est responsable que d'être la sœur d'un homme qui a agressé quelqu'un sexuellement, une femme en l'occurrence. En fait, on fait... Enfin, il y a toujours ce truc qui est utilisé souvent, même moi, j'ai pu l'entendre beaucoup, c'est... S'il y a un homme dans ton entourage déjà qui a fait quelque chose de mal, donc t'es féministe mais tu tolères ça, alors il y a une différence entre tolérer quelque chose et juste en fait reconnaître que c'est arrivé. Je pense qu'Angèle, elle a absolument pas soutenu son frère dans ce qui s'est passé, et je sais pas absolument pas ce qu'ils se sont dit en privé, mais ça les regarde en réalité, mais à aucun moment elle a dit c'est moins grave parce que c'est mon frère ou c'est pas vrai parce que c'est mon frère. Elle aurait dit ça, j'aurais pu comprendre qu'on s'énerve contre elle.
Elle est intervenue en plus sur Instagram.
Elle est intervenue publiquement. Moi, personnellement, j'ai pas regardé sa vidéo, j'avoue.
Bah, elle a juste dit que justement, c'était hyper délicat parce que c'était dans son cercle proche, mais que pour autant, elle croyait les victimes et qu'elle était dans cette démarche-là, en gros.
Mais ce qui est vrai, enfin, en réalité, en fait, quand c'est quelqu'un de ta famille, je pense, qui est concerné, sans remettre toutes tes convictions en question, bien sûr que tu vas pas être en mode bah, « je te parlerai plus de toute ma vie », etc. Je pense que en fait, ça regarde après chacun dans leur cercle privé, quoi. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que moi, quand j'ai pu avoir des discours qui ont pu être perçus comme misandres, donc voulant dire... qui déteste les hommes, voilà. On m'a souvent dit genre « oui, mais tu critiques les hommes, mais t'as un frère et t'as un père ». Oui, j'ai un frère et j'ai un père et je critique les hommes. J'ai même des amis hommes, pas beaucoup, mais non, c'est fou en plus. mais en fait, voilà, il y a toujours ce truc de voilà. En fait, si tu es une vraie féministe, il faut que tu n'aies aucune relation, quelle qu'elle soit, avec de près ou de loin, avec un homme. Ce qui est quand même assez contraire à ce que on nous répète le reste du temps. Et ça, c'est très propre aussi aux arguments antiféministes, c'est qu'ils se contredisent très souvent. Donc, en gros, il faudrait qu'on n'ait aucune relation proche avec quel homme que ce soit. Mais en même temps, ça voudrait dire qu'on n'est pas vraiment féministe parce qu'en fait, on ne devrait pas rejeter tous les hommes. Donc voilà, on ne sait plus. Du coup, est-ce qu'on doit être pote avec les mecs ou pas? On ne sait pas.
Mais quand on rejette, vraiment de manière les hommes, je pense à Alice Coffin qui a sorti il y a quelques jours Le génie lesbien. Quand on fait ça, bah alors là, c'est la fin des haricots, quoi. Ouais. Donc en fait, quand on relationne, ça va pas. Quand on relationne pas, ça ne va pas.
Exactement.
Non plus.
Ouais. Voilà, donc ça, c'est une première contradiction dans le contre-argumentaire aux féministes. Mais il y en a plein, en réalité. Donc voilà, après, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, mais ça fait partie des choses les plus... Enfin, moi, vraiment, ce truc de... Mais tu détestes les hommes, mais t'as un père. Enfin, vraiment. Alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des pères merdiques, en réalité, premièrement. J'ai la chance que ce soit pas mon cas et j'aime beaucoup mon papa. Mais ça veut pas dire que je remets pas en question non plus les comportements de mon père ou mon frère. Mon frère, c'est un petit frère, il a 4 ans de moins que moi. Et je me tue à faire son éducation et je pense que j'y arrive la plupart du temps, donc tant mieux. Mais si demain j'apprends qu'il a agressé quelqu'un sexuellement, évidemment que je vais pas aller dire que, enfin, voilà, que c'est pas grave ou que, ah bah mince, c'est toi, donc ça n'arrivera qu'une fois et c'est pas... Enfin voilà.
C'est moins grave.
C'est moins grave. Enfin, au d'un moment, faut arrêter aussi de penser qu'on fait ça juste pour s'amuser. Enfin, c'est pas des... On choisit pas les gens qu'on va critiquer ou pas, et que ce soit des proches ou pas. Bien sûr que c'est plus compliqué quand c'est quelqu'un qu'on connaît et qu'on aime, je le pense sincèrement que c'est plus compliqué, mais après il appartient à chacun de choisir ce qu'il fait avec ça. Est-ce qu'il coupe les ponts, est-ce qu'il coupe pas les ponts? Tant qu'on ne soutient pas, je pense, l'acte, à partir de là, je pense qu'il y a aucun féminisme à remettre en question chez qui que ce soit, quoi.
Oui. En fait, voilà. Quoi qu'il arrive et quelle que soit la dénonciation, peu importe qui on dénonce et peu importe la gravité des actes et des faits, les personnes qui soutiennent une opinion comme une autre vont essayer de tourner ça en leur faveur et détourner le sujet pour voilà pour trouver des arguments pour sa paroisse, j'ai envie de dire. Et en fait là ça détourne le sujet de, en l'occurrence, une agression sexuelle de quelqu'un de connu. On pourrait discuter de comment il doit agir, qu'est-ce que la justice doit faire, est-ce qu'il a bien réagi, pas bien réagi, est-ce que voilà quel accompagnement a été fait à partir pour la victime, à partir du moment où elle dénonce publiquement jusqu'à potentiellement une condamnation. Là, on va parler des féministes et comment elles se comportent et comment elles réagissent par rapport à ça. On va vraiment attaquer sur la forme de militer, alors qu'en l'occurrence, bah voilà, on est des humains, on est faillibles, et même si on a le droit d'être militant et militante, voilà, à savoir, moi, ma définition d'être militant, bah, c'est de défendre une certaine version de la vérité, enfin défendre vraiment des valeurs, et malgré les valeurs qu'on défend, et bah, parfois on est tous remplis de contradictions et des fois on fait des erreurs aussi, et c'est pas l'idée, c'est pas de nous les reprocher, mais c'est bien de d'entendre et de comprendre les arguments qu'on souhaite défendre, et pourquoi pas de les envisager. Mais ça va dans n'importe quel sujet, dans n'importe quel débat et sur n'importe quelle position.
Le problème principal aussi de ces détracteurs, c'est leur ignorance, parce que rien que d'attaquer les féministes en disant que ce sont des personnes qui détestent les hommes, c'est écarter aussi les hommes du féminisme. C'est-à-dire que pour eux, le féminisme, c'est des femmes hystériques qui détestent les hommes, qui veulent absolument prendre le dessus ou je ne sais trop quoi, alors que déjà, rien que ça, ils ne se rendent pas compte que c'est une lutte pour l'égalité femmes-hommes. Ces personnes-là qui pensent aussi que cette égalité, elle est peut-être déjà atteinte, voire même qui des fois disent que les femmes ont... Je suis loin du micro peut-être.
Non, ça marche.
Ces femmes ont même des fois des privilèges sur eux, et ça peut aller très loin. Et donc, c'est une ignorance de penser que... de voir de l'extérieur ce que le féminisme, faut aussi éduquer ces personnes-là, c'est...
Ouais, et puis c'est une ignorance, donc c'est des personnes qui ont peur aussi,
ouais,
qui ont vraiment peur, qui ont peur pour leurs libertés individuelles, qui ont peur de se retrouver dans une situation de soumission par rapport aux femmes si les féministes, elles obtiennent ce qu'elles veulent. Et oui, enfin, les deux sont liés, quoi, peur et ignorance, mais c'est vrai que bah, pour le coup, on ne manque pas de pédagogie et de bienveillance lorsqu'on souhaite partager nos arguments et partager ce qu'on défend. Mais malgré tout, ça n'entre pas, ça ne passe pas, et on se fait encore attaquer sur des choses très basses. Anaïs.
Du coup, je suis obligée de rebondir parce que Louise a parlé de détester les hommes et Paul a enchaîné après sur l'ignorance et de comment certains parlent les féministes. Alors, je suis allée loin dans mon investissement pour cette émission et j'ai lu une chronique sur le Figaro, une tribune de Paul Melun, voilà, qui nous écrit que... Dans les limbes de l'Occident malade se distinguent toujours de nouvelles créatures promptes à détruire un peu plus l'équilibre que notre civilisation avait su édifier. Les égéries de ce 21e siècle revanchards et belliqueux se nomment aujourd'hui Alice Coffin et Pauline Armange. Alice Coffin a donc sorti au mois de septembre Le génie lesbien et Pauline Armange a quant à elle sorti un livre qui s'appelle Moi les hommes je les déteste. Voilà, donc le type déjà il n'est pas du tout théâtral, hein, on part dans un grand délire d'Occident malade machin. Quand il parle de l'équilibre de la civilisation, de quel équilibre tu parles en fait, du patriarcat, parce que du coup le patriarcat c'est quand même un principe de domination, donc en termes d'équilibre on repassera. Ensuite, il nous parle, les thèses des deux militantes s'inscrivent dans le nouveau courant dit de la misandrie issue des États-Unis. Il s'agit pour ces nouvelles féministes de revendiquer la détestation des hommes sur la base de leur sexe biologique. En opposition à la misogynie, la misandrie prétend libérer les femmes du joug éternel de la domination masculine. Bah du coup, le joug, oui, enfin, patriarcat. Patriarcat. Pour ces militantes, il ne s'agit plus de revendiquer l'égalité, mais bien de lutter contre les hommes, tous les hommes. C'est ainsi qu'Alice Coffin, également élue à la mairie de Paris, écrit « Les hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique ». Il y a plein de gens qui sont outrés qu'elle ait dit ça, mais en fait, sur le principe, du coup, c'est normal que depuis des centaines d'années, ce ne soit que des hommes qui créent l'art et c'est l'art qu'on met en avant, en fait. Du coup, ça choque personne, par exemple, qu'au programme du bac littéraire, il n'y a que des auteurs et qu'il n'y ait aucune autrice. Par contre, qu'on fasse l'inverse, tout de suite, il y a un problème. Mmh. Et un autre extrait de sa chronique. Cette pulsion revancharde qui se traduit par des boycotts d'œuvres réalisées par les hommes ou des réunions où seules les femmes peuvent accéder, se répand à travers le pays. L'enseignement supérieur est particulièrement gangréné par les luttes intersectionnelles. C'est ainsi que des conférences sont annulées, des associations étudiantes sont dissoutes et des professeurs sont accusés et dénoncés. Alors, du coup, on boycotte pas Polanski, par exemple, parce qu'il a le malheur juste d'être un homme. En fait, on le boycotte parce qu'il a été condamné pour le viol d'une adolescente il y a 40 ans. Et globalement, tous les autres qui ne sont pas condamnés, on les boycotte parce que la justice ne fait pas son travail. On parlait tout à l'heure de la présomption d'innocence. Voilà, du coup, j'ai lu ce truc-là et vraiment, je me suis dit, je ne sais pas où vivent ces gens, mais... Enfin, ce mec, en l'occurrence. Mais il est vraiment très à côté de la plaque.
Ouais, voilà. C'est incroyable de reprocher à des personnes... de porter des accusations En soi, bah, c'est tout le travail de la justice de déterminer si ces accusations sont véridiques ou infondées. Mais en soi, à quel moment on va reprocher à quelqu'un de vouloir recourir à la justice ?
Et puis, encore une fois, c'est assez paradoxal parce que ils sont quand même dans une rhétorique qui dit, par exemple, donc on a peur de la domination féminine. Donc, alors que c'est des gens qui c'est même pas qu'ils défendent la domination masculine, mais ils considèrent que la société telle qu'elle fonctionne actuellement, ça marche, c'est bon, c'est ok. L'équilibre, il est quand même plutôt ok, bon, pourquoi pas. Sauf qu'ils reconnaissent que s'il y avait une domination féminine, ce serait terrible. Donc en soi, ils reconnaissent très bien que ce que leur domination à eux, aujourd'hui, elle est horrible, puisqu'ils veulent pas se retrouver dans notre position. Mmh. Ils ont peur qu'on les traite comme ils nous traitent. Enfin, là, je fais un peu eux contre nous, mais en réalité, je pense que dans leur tête, c'est un peu ça aussi, c'est les hommes versus les femmes. Et en fait, ils avouent en fait à demi-mot que la manière dont ils nous traitent est, ne fonctionne pas et est terrible, puisqu'ils refuseraient strictement de se mettre dans nos bottes, en fait, ne serait-ce que l'espace d'une semaine. Donc, il y a un truc de... la société fonctionne telle qu'elle est maintenant, mais par contre, une autre domination, ça marcherait pas. Il y a que la nôtre qui fonctionne. Enfin, c'est aberrant vraiment d'entendre ce genre de choses. En fait, pour moi, c'est juste un aveu de dire, en fait, on vous traite comme de la merde. Je suis désolée, il y a pas d'autre mot. On vous traite comme de la merde. On n'a pas envie de se faire traiter comme de la merde. Voilà. Donc, ce serait terrible si vous nous dominiez. Donc, enfin, voilà. Genre, encore une fois, c'est paradoxal. À 100%,
concentrez-vous et soyez cohérent.
Mais franchement, le jour où vous voulez vraiment démonter nos arguments, genre, je sais pas, ouais, c'est ça, concentrez-vous, quoi. parce que, vraiment, c'est toujours les mêmes rhétoriques depuis des années et des années, et en fait, maintenant, on a aussi appris à y répondre, je pense, et je pense que c'est le cas de plus en plus de femmes, et j'en suis ravie, de femmes ou de minorités en général, de genre. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il y a de plus en plus de femmes qui sont réceptives à ce truc de, en fait, oui, en fait, on n'est pas bien traitées, et ce patriarcat, cette société patriarcale, ça ne fonctionne pas en réalité. Et ce truc de dire il faut protéger notre société avec des hommes virils et des femmes qui procréent, c'est bon. Enfin, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients que ça fonctionne plus trop et que on en a ras la casquette.
Ouais. Voilà. Et puis ça va de pair avec. Enfin, moi je trouve que la personne que tu as citée, alors je sais plus si c'est Alice Coffin ou l'autre.
Alice Coffin.
Ouais, justement. Elle, pour le coup, je pense que c'est une position militante aussi, une position féministe, de 100%. Dire je ne consomme plus que des objets culturels qui sont produits par des femmes. En soi, c'est très arrêté comme décision, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est mûrement réfléchi pour elle et qu'elle fait ça avec beaucoup de sens et beaucoup de pertinence pour ce qu'elle défend et ce en quoi elle croit. Mais en soi, enfin, qu'est-ce qu'on vient lui chier dans les bottes alors qu'elle fait vraiment du mal à personne, quoi.
Bah, elle a pas dit effectivement de brûler tous les livres écrits par les hommes, quoi.
Mais oui, c'est ça. Et en soi, c'est pas. Dans d'autres luttes, on va reprocher aux personnes de pas vouloir acheter de voiture, de pas vouloir prendre l'avion, de pas vouloir consommer de viande. Mais en soi, ça fait du mal à qui ? Et en soi, enfin, si elle peut inspirer des consoeurs féministes qui ont envie de se remettre en question et de s'ouvrir un petit peu plus à de l'art et de la culture créée par des femmes, et grand bien lui fasse. Et en soi et je pense qu'aucun homme ne souffrira de sa position, en tout cas de ce genre de comportement.
Et c'est ça aussi, en fait. Il y a toujours ce... Enfin, Alice Coffin, elle a aussi, au-delà du fait de se faire taxer de misandre, ce que je pense en plus elle serait prête à assumer, parce qu'être misandre, c'est aussi une opinion politique et qui se défend. Enfin, moi, en tout cas, je suis partisane de dire que on peut se dire misandre, ça n'a absolument pas la même valeur que se dire misogyne, parce que on est dans une société patriarcale, vraiment. Bon, bref. Et c'est surtout que du coup, on va lui dire, ouais, mais si tout le monde faisait ça, comment effraient les hommes artistes pour suivre ? En fait, déjà, tout le monde ne fera pas ça. La preuve, vous ne voulez pas le faire, donc il y aura au moins vous pour encore écouter des artistes masculins. Mmh. Et de deux, on sait très bien que, vu la grande majorité d'artistes, d'écrivains, etc., masculins aujourd'hui, dans tous ces milieux-là, en fait, c'est pas avec une personne, 10, 1000, même là, demain, il y a 10 000 féministes qui décident de faire ça, ça ne changera rien en réalité, non, pour personne. Donc, c'est une prise de position qui est plus... qui est, oui, dans le matériel, mais en réalité, c'est plus symbolique qu'autre chose. Et tant mieux, la preuve, ça fait parler. Et moi, je trouve ça super que les gens aient l'occasion d'entendre parler d'Alice Coffin, en bien ou en mal, en tout cas, qui s'intéresse à ce qu'elle dit, parce que c'est quelqu'un qui milite depuis très longtemps et qui a des prises de position qui, certes, sont radicales, mais qui sont extrêmement intéressantes. Et en effet, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle n'est pas juste une folle qui déteste les hommes. Voilà, elle sait très bien de quoi elle parle. Et j'invite tout le monde à aller lire... ce qu'elle écrit, parce que ce soit le livre qu'elle vient de sortir ou en général les articles qu'elle peut publier, parce que c'est une personne intéressante et comme d'habitude, avant d'aller critiquer, prendre juste une phrase et la sortir de son contexte, c'est toujours mieux de critiquer quelqu'un quand on a lu ce qu'il ou elle faisait. Donc, voilà.
Puis le problème des détracteurs, c'est qu'ils veulent voir que ce qu'ils veulent voir. C'est
tout
que
à fait.
Là, ils vont voir une personne qui a des... qui a des choix quand même qui sont très arrêtés, qui ont
très fort,
très fort. Et donc ils vont se dire bah toutes les féministes ont des choix comme ça et toutes les féministes détestent les hommes, et donc ils vont pas faire attention à tout ce qui se passe à côté de toutes les autres manifestations des autres féministes, et qui vont s'arrêter là-dessus quoi. Ouais. C'est encore une fois voir ce qu'on va voir pour défendre ce qu'on a envie de défendre, parce qu'on a peur de l'inconnu. Mm-mm. En ignorant de ce qui existe, on veut aussi pas se mettre à la place des autres.
Et on a une mauvaise foi.
Une mauvaise foi.
Très mauvaise foi.
Le problème, c'est qu'ils restent concentrés sur ce qu'ils ont devant les yeux, ils ne cherchent pas à aller voir plus loin. Et donc, malheureusement, ils ne se mettent pas à la place aussi des femmes. Ils voient que pour eux, ça se passe bien. À la limite, peut-être pour leur entourage, ça se passe bien. Et bien, je ne vais pas chercher beaucoup plus loin. Moi, je ne veux pas que ça me dérange ma vie à moi. Et donc...
ouais. Après, on est tous sujets à ça. Forcément, peu importe l'opinion qu'on défend et le bord duquel on est, mais voilà, on est tous très confortables lorsqu'on nous parviennent des opinions qui sont dans notre sens et qui confirment déjà ce qu'on pense. On est tous, on a tous le même cerveau, un cerveau qui fonctionne à peu près pareil, et du coup, on peut tous tomber dans des travers comme cela. Mais il n'empêche que voilà, lorsqu'il y a des arguments fallacieux qui sont utilisés, il faut les pointer du doigt et se dire que ça vaut pas, ce genre d'argument ne défend. Ni l'opinion de la personne qui le dit, ni ne détruire l'opinion à laquelle il s'oppose. Là, en l'occurrence, c'est l'argument de la pente glissante, c'est « Ah, mais s'il y a une femme qui se retrouve en plus à la mairie de Paris et qui a des positions aussi radicales, demain, il y en aura 10, et puis dans un an, il y en aura 100 000, et puis après, les hommes, ils seront soumis. »
Aujourd'hui, Paris, demain, le monde.
Voilà. Sachant qu'à la base, avant même d'avoir écrit ce bouquin-là, elle en a pris plein la tête parce qu'il y a un de ses collègues élus qui, donc... il y a eu l'affaire Matzneff, je sais plus si c'est cet été, donc pédophile notoire et pédocriminel, pardon. Et du coup, elle a dénoncé le fait qu'un des élus ait déjeuné avec cette personne-là et en plus a fait passer ses frais de repas sur ses frais d'élu. En plus, elle en a pris plein la tête sur un truc qui était complètement légitime.
Oui, c'est ça. Bon. C'était une actualité aussi de cet été. Du coup, qu'on n'a pas sélectionné, mais rapidement, oui, c'est ça. C'est cet adjoint à la mairie de Paris qui était aussi, il me semble, délégué à la culture ou quelque chose comme ça, qui était un ami sans le dissimuler de Gabriel Matzneff, et les critiques à son encontre devenant de plus en plus importantes et grandissantes, il a démissionné. Et là, tout le monde, pareil, une nouvelle fois.
La pointée du doigt, elle, voilà. Qu'elle n'a rien fait. Hein, mais les Français sont très anti-délation quand ça concerne les puissants seulement. Pour le reste, c'est bon, on a le droit de dénoncer, mais quand c'est des gens importants, ça ne se fait pas. Bref.
Pour revenir aussi sur l'argumentaire qui est souvent utilisé, c'est utiliser des actes qui sont tellement minoritaires, comme on savait, par exemple, une accusation qui une fois va être une accusation d'une femme qui est en fait mentée. Et les hommes vont se concentrer là-dessus, alors que c'est un acte qui est tellement minoritaire par rapport au reste. Ou dire, des femmes sont violées, oui, il y a des hommes aussi qui sont violés. Et c'est toujours utiliser cette chose minoritaire pour défendre quelque chose, pour décrédibiliser les manifestations. Quoi.
Tout en rappelant qu'il ne faut pas minimiser ces actes qui sont minoritaires, parce qu'ils sont graves, etc. Mais en effet, souvent, on en parlait en off tout à l'heure, en fait, le problème, c'est de prendre ces actes minoritaires et d'en faire un cheval de bataille, alors qu'en réalité, ces gens-là s'en foutent. Enfin, on parlait des hommes violés, du coup, parce que ça existe absolument, même si, oui, en moindre mesure que les femmes, ça existe et c'est tout à fait grave. Mais en réalité, ces hommes-là qui vont venir me dire, moi je connais un gars, il s'est fait violer une fois, en réalité ils en ont rien à foutre des mecs qui se font violer,
ils me mettent dans une colère terrible. En fait,
ils en ont rien à foutre des violences sexuelles en général, ils en ont rien à foutre de la pédophilie, ils s'en foutent, voilà, tout ce qu'ils veulent c'est
faire taire une féministe,
oui, c'est ça. Je sais pas, peut-être qu'ils ont un tableau de chasse aujourd'hui, combien de féministes
à qui j'ai cloué le bec,
voilà, exactement. Donc je suis tout à fait d'accord, souvent ils vont prendre des petits actes isolés qui certes ont leur importance, mais ils vont se concentrer là-dessus et ça va devenir leur cheval de bataille.
Encore quelque chose qui souligne la, L'incohérence dont tu parlais,
hein. Complètement.
Enfin, parfois les contradictions.
Est-ce que je peux me permettre une dernière incohérence ou
On a quelques minutes
encore. Ouais. Moi, je vais me baser sur mon expérience personnelle parce que voilà, je suis moi-même la féministe qui casse l'ambiance en soirée depuis un certain temps maintenant.
Je suis pas toute seule. Super. Ça me fait plaisir.
Et quelque chose qu'on va me répéter souvent, c'est mais t'as pas l'impression que t'es un peu trop cliché. Alors pour c'est pas très radiophonique ce que je dis, mais voilà, moi j'ai des poils sous les bras, j'ai les cheveux teints un peu moins maintenant parce que ça commence à repousser. J'ai les cheveux teints, j'ai des tatouages. Enfin, grosso modo, j'essaye de ne pas trop me concentrer sur ce que je représente en termes de physique, voilà, de ce que je vais renvoyer comme image. Et souvent, avec ces clichés-là, vont « mais si t'aimes pas les hommes, c'est que t'as eu une mauvaise expérience », le fameux « tu es mal baisé ». Bon, encore une
fois... Mais qui nous baise mal ?
Voilà, wow. Déjà. <Ouais. rire> Bon, voilà, en plus, bon, moi, je ne suis pas hétérosexuelle, donc en plus de ça, voilà, je suis vraiment le cliché du cliché qui déteste les hommes, où j'ai un complexe d'Oedipe, voilà, avec mon père... Wow. En plus, déjà, si on décortique tous ces arguments, finalement, la faute, c'est ça, revient aux hommes. Parce que si j'ai des problèmes avec mon père, c'est probablement la faute de mon père, déjà, si toutefois j'en avais. Si j'étais mal baisée, bah, ce serait en effet mal baisée par sûrement un homme, du coup.
Compris cet argument. Juste, oui. Vous tirez une balle dans le pied, les gars, vraiment.
Bah, c'est une insulte comme une autre, quoi. On va pas vraiment chercher le fondement de l'insulte.
C'est pas trop bon.
Là, c'est
mais
très.
Ouais. En fait, moi, j'ai l'impression de me faire accuser dans ce moment-là de trop abandonner ma féminité. Et en fait, le problème qu'ils ont souvent les gens qui voient que j'abandonne ma féminité, si toutefois ça veut dire quelque chose, c'est en fait on me reproche en fait bah oui de m'éloigner des codes qu'on m'a imposé, des codes genrés, des dictats de beauté, etc. Je ne suis coupable que d'essayer de m'émanciper en effet de ces choses là donc pareil, encore une fois, à qui la faute? Et surtout l'incohérence, elle est là, c'est que l'inverse est aussi critiqué, c'est à dire que être trop féminine, une féministe qui correspondrait trop aux critères de féminité, qui se maquillerait, qui s'épilerait, qui serait très belle, qui serait très portée sur les vêtements, etc., ce ne serait pas une vraie féministe, hein, parce que tu te dis féministe, mais toi aussi tu es soumise au dictat beauté. Bon, bref, encore une fois, quoi qu'on fasse, on n'est pas une bonne féministe et on est coupable. Surtout qu'on le rappelle, je me permets de le rappeler, se réapproprier les dictats qu'on nous impose et les choses qu'on nous impose, c'est une manière aussi de militer, et c'est le cas depuis des millénaires par de nombreuses minorités, de récupérer quelque chose qui nous a été imposé et en faire une force. Donc si vous avez envie de vous maquiller et vous dire féministe, vous en êtes tout à fait légitime à le faire, et surtout que vous le faites très bien. Moi, je suis très admirative des gens qui savent se maquiller, j'aimerais bien pouvoir le faire aussi. Bref, je m'égare. En fait, on est
Roman
toujours...
et Lucas, on pense à
voilà,
vous.
Voilà, on pense à vous, exactement. Et en fait, voilà, en conclusion, c'est que des incohérences comme ça, je trouve, les arguments qui nous sont... Soit on est trop féministe, ou soit on l'est pas assez, on est trop belle, pas assez belle. Si t'es une féministe et que t'es moche... c'est parce que t'es moche que t'es féministe. Si t'es une féministe et t'es belle, bah t'es pas vraiment féministe parce que t'es trop belle. Enfin bref, on n'est jamais assez bien et ça n'a jamais de sens en réalité. Il faudrait toujours trouver ce juste équilibre. Mais en fait, ce juste équilibre, il correspond à personne à part à ces gars qui souhaitent en effet que l'équilibre de la société telle qu'elle est aujourd'hui... Enfin voilà, c'est un équilibre qui ne sert qu'eux en fait, et c'est un équilibre où en fait nous on est en bas et eux ils sont en haut, donc bon voilà, bref, je m'égare dans mes arguments.
Non mais je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait d'être une féministe, et je conclue. Tout à l'heure je vous ai parlé de la newsletter de Titu Lecoq qui avait rebondi justement sur l'affaire d'Angèle, et justement je vous ai pas tout lu, mais elle concluait sa chronique, sa newsletter en disant que elle pense que la violence dont a fait l'objet Angèle était d'autant plus forte que Angèle est une femme plutôt belle qui colle aux critères de beauté qu'on impose aux femmes, et d'autant plus que Angèle est depuis quelques temps en couple avec une femme, et elle l'a annoncé publiquement, et du coup Titu Lecoq disait qu'elle sort en fait encore plus du code, genre comment est-ce qu'elle a osé en plus sortir de l'hétérosexualité, et que du coup c'est pour ça qu'elle a pris une vague de harcèlement aussi violente.
Tout à fait.
Voilà.
Incroyable, encore. Même si c'est toujours stupéfiant. Malgré tout, merci pour avoir participé à cette discussion, Louise, Anaïs, Paul.
Et Merlin.
Oui, très content de vous avoir, très content de revenir sur les ondes de Radio Campus Tour. Pour Ménage-toi, Simone, on va se faire une nouvelle pause musicale. Cette fois-ci, c'est Eta Band avec A2, sûrement A2.
Yeah.
Et là, c'est le titre qui s'appelle Surface. Yeah, you're pretty, but show me what's beneath your surface. I wanna know you.
Tell me all about your purpose and where you plan to grow to. I don't need to check the gram, I'm the one that took the photo. Want you as their man, but they don't even know you. You're like no one that I've ever seen. Front page, cover of a magazine. But my mama told me nothing's really ever as it seems. Nothing really ever as it seems. You're like no one that I've ever seen. Front page, cover of a magazine. But my mama told me nothing's really ever as it seems. Nothing really ever as it seems. Yeah, you're pretty, but show me what's beneath your surface. I wanna know you. I don't need to check the gram, I'm the one that took the photo. They want you as their man, but they don't even know you. Tell me all about your purpose and where you plan to grow to. I don't need to check the gram, I'm the one that took the photo. Want you as their man, but they don't even know you. Seems like something straight out of a dream, but there's always something hiding underneath. Wanna tell me, baby, you can open up to me. Baby, you can open up to me. Seem like something straight out of a dream. There's always something hiding underneath. If you wanna tell me, baby, you can open up to me. Baby, you can open up to me. Yeah, you're pretty, but show me what's beneath your surface. I wanna know you. I don't need to check the gram, I'm the one that took the photo. They want you as their man, but they don't even know you. Tell me all about your purpose and where you plan to grow to. I don't need to check the gram, I'm the one that took the photo. Want you as their man, but they don't even know you. You can't hide yourself forever, baby. All those likes don't mean nothing. They'll find out one day. You can't hide yourself forever, baby. All those likes don't mean nothing. Nothing really ever ends.
Never, never, never. So your mommy had, she ain't never lied. Ghosted like a poor guy, trying to pay my mama's rent. Yeah. Always moaning, but you grown this time. So, was young back then, but swear you've grown with time. Wait there, hey there, stay there, wait and see. You just barely scratched the surface, girl, I'm way too deep. Heard you put that work in, I just came to see. Hey. Fighting all your urges, baby, say la vie. I don't wanna tell you how much you deserve this. I need to show you. They won't find out what we do behind them girls. I've been ready, I'm just checking if you're certain now, yeah. I know they're all lurking round. I know they're all lurking. Said that you don't miss me, but I hear that keep purring. See me on your surface like a surgeon, I'm lurking.
Show me what's beneath your surface. I wanna know you. I don't need to check the gram, I'm the one that took the photo. They want you as their man, but they don't even know you. Tell me all about your purpose and where you plan to go to. I don't need to check the gram, I'm the one that took the photo. Want you as their man, but they don't even know you.
Etabound et A2 et A2 sur Radio Campus Tour, c'était le titre Surface, Surface. On est toujours dans Ménage-toi Simone, on est toujours avec Anaïs, avec Louise, avec Paul, et moi c'est Merlin. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Tour, 99.5 FM. On vient de terminer une discussion sur les arguments qui sont avancés pour décrédibiliser les féministes. C'était pas trop plombant, on s'en sort bien cette fois-ci, mais habituellement c'est vrai qu'on a des sujets de discussion plutôt plombants, et c'est pour ça que directement après on laisse place à la chronique des bonnes nouvelles, la chronique qui s'appelle Tout n'est pas perdu. Et donc là, comme pour les actualités, on a rassemblé chacun et chacune quelque chose qui nous a fait plaisir, qui nous a réjoui, et quelque chose qu'on voudrait partager aux auditeurs, aux éditrices, qui nous réchauffe le cœur. Qui souhaite commencer?
Moi je veux bien.
Louise.
Moi, la bonne nouvelle que j'ai, c'est sur le Parlement de Nouvelle-Zélande. Alors, c'est pas tout près d'ici, mais c'est important quand même. Où, dans le nouveau Parlement de Nouvelle-Zélande, il y a 10% des députés qui sont LGBT, ouvertement en tout cas. Donc, 12 députés sur 120, donc 10%, le calcul est simple. À mentionner quand même qu'il n'y a pas de personnes transgenres parmi ces 12 personnes. Chaque chose en son temps, mais on espère que ce sera le cas très vite. Pour resituer un petit peu, en Nouvelle-Zélande, c'est une première ministre qui s'appelle, alors j'ai très peur d'écorcher son nom, Jacinda Ardern, je ne sais pas si on dit Jacinda ou Jacinda, bref, désolée, qui donc est première ministre donc, du Parti travailliste, et qui est très progressiste et qui vient d'être réélue et donc qui met un point d'honneur sur le fait d'avoir une grande diversité parmi ses députés. Le Parti travailliste, il est à 49% dans le Parlement de Nouvelle-Zélande, donc c'est énorme, c'est presque la moitié du Parlement, donc c'est assez exceptionnel je pense dans tous les pays qui disposent d'un Parlement, ça arrive très rarement. Et elle a été réélue parce qu'en fait depuis qu'elle a été élue la première fois, elle a géré un attentat, une éruption volcanique et une pandémie mondiale, et visiblement elle s'en est bien sortie puisqu'elle a été réélue. Et ouais. Et elle est assez admirée dans le monde politique international, cette femme, parce que déjà être une femme en politique c'est compliqué, mais en plus elle le fait avec grand talent et grand brio, et en plus de ça voilà, elle est pro-diversité, pro-progressiste du coup, donc voilà, ça fait plaisir. Et nous en France on est à 0,8% je crois de députés.
Tu peux rebondir là-dessus.
Bien sûr.
Avec aussi une bonne nouvelle qui est la Belgique qui a nommé la première ministre transgenre d'Europe. Il y a il y a 2 semaines.
Fabuleux. Voilà. Mm-hmm. Fabuleux, voilà.
On avait déjà parlé de la Nouvelle-Zélande, je crois. Bon, c'était bien avant ces histoires de pandémie et de coronavirus. Mais oui, moi, je vous parlais de mon grand frère qui était parti y vivre un an. Et justement, je m'étais renseigné à ce sujet-là sur la situation politique et comment s'était gérée la politique en Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que c'est toujours admirable. Et puis, bah, ça apporte ses fruits aussi, parce que donc une réélection... un renouvellement donc des personnes dans le gouvernement voilà, toujours plus loin dans aussi une part de d'essai, une part de d'innovation je vais dire, et pour autant qui fait pour l'instant pas, c'est pas pire que si c'est des hommes blancs qui gèrent quoi.
C'est ça.
Donc voilà, ça en dit voilà.
Pareil, il s'avérerait que les minorités de genre, les minorités sexuelles, les minorités de couleur de peau, etc., seraient dotées d'intelligence et de capacités politiques.
C'est fou, hein, quand même.
Break news. Ouais. Et il est grand temps voilà, qu'on prenne la place. Enfin, je dis on.
Yes.
Vraiment, j'y suis à fond.
Mais
là.
Vas-y, Louise.
Non, moi, je ne me destine pas à une carrière politique, d'accord. Heureusement, je pense. Mais voilà, il est grand temps, je pense, que voilà, les minorités puissent s'exprimer sur ce qui les concerne, mais sur aussi les choses de société. Parce qu'en fait, je pense que c'est aussi la crainte, souvent, des gens qui ne font pas partie d'une minorité, c'est de se dire, mais en fait, ils vont parler que de ça, que du fait d'être LGBTI. Alors déjà, oui, parce qu'il y a plein de trucs à dire là-dessus, d'une part. Et d'autre part, non, en fait. On est aussi au courant du reste des choses qui se passent et qui ne nous concernent pas. Bon, bref. Encore une fois, je m'égare.
Merci beaucoup pour cette bonne nouvelle, Louise.
De rien.
Je me permets d'enchaîner. Moi, ma bonne nouvelle, elle concerne encore une actu science, parce que voilà, on commence à se connaître, chers auditeurs, chères auditrices. J'aime bien la science. Ça me passionne, mais toutefois, pour cette actualité-là, je vais reprendre mes petites notes, parce que les noms, c'est toujours pas ça. Et donc, je vais parler prix Nobel. On en avait parlé aussi l'année dernière. L'année dernière, on vous en parlait, puisque c'était une femme française qui avait reçu le prix Nobel d'économie. Elle est franco-américaine et elle a reçu le prix l'année dernière avec son mari notamment, qui est aussi américain. Et là, cette fois-ci, on peut d'autant plus en parler dans cette émission, puisque cette fois-ci, c'est le prix Nobel de chimie qui a été décerné à 2 femmes, une française et une américaine. La française s'appelle Emmanuelle Charpentier et l'américaine s'appelle Jennifer Doudna.
Trop bien.
Elles ont eu une découverte en chimie très très importante, et ça fait longtemps qu'on en parle. C'est une découverte il y a quelques années maintenant, mais voilà, ça fait 4 ans en fait, 4 ans qu'on leur promet un prix Nobel, et au début on pensait que ça allait être en médecine, et finalement c'est en chimie qu'on leur décerne ce prix-là. Pour faire simple, je ne vais pas vous embrouiller avec comment ça marche, qu'est-ce que c'est particulièrement cette découverte en chimie. C'est ce qu'on appelle les ciseaux moléculaires. Le génome s'appelle, une sorte de grosse molécule, une protéine qui s'appelle CRISPR-Cas9, ou sûrement en anglais CRISPR-Cas9.
À tes souhaits.
Et en fait, c'est un, comme un voilà, mini ciseau, un rikiki ciseau qui est capable, si fin, il est si fin qu'il est capable de couper des brins de l'ADN en fait. Et ça, on serait capable à l'issue, si on arrive à bien maîtriser cette technologie-là, de dans le génome d'un enfant, d'un humain qui se développerait, d'un fœtus ou d'un embryon, de modifier le génome de cellules souches pour empêcher et endiguer le développement de maladies orphelines ou de maladies génétiques qu'on ne sait pas soigner une fois que l'embryon est développé, une fois que c'est un humain avec énormément de cellules qui ont toutes le même problème dans leur ADN. Et donc voilà, ça pose plein de questions et ça vous les apporte à beaucoup d'imaginaires. Voilà, moi je rappelle, enfin, c'est ma position aussi, mais moi je pense que la science, elle doit nous expliquer comment ça marche et elle doit pas nous dire comment s'en servir. Ça, ouais. C'est le problème, c'est une problématique de la politique justement. Mais voilà, parce que forcément, quand on parle de modifier les génomes, on peut aussi, tomber dans des travers éthiques de génisme et ce genre de choses. Mais là, voilà, on est sur du prix Nobel, on est sur récompenser des découvertes scientifiques, et là, en l'occurrence, une découverte scientifique exceptionnelle, incroyable. Et
c'est deux femmes.
Et c'est deux femmes. Alors là, j'ai l'article du Monde sous les yeux qui donne quelques chiffres très intéressants. Alors, depuis 4 ans, en effet, depuis 4 ans qu'on leur promettait un prix Nobel, c'est enfin arrivé. Après les prix accordés en 2009, c'est la deuxième fois seulement depuis la création de la récompense en 1901 que deux femmes sont simultanément honorées pour la même discipline.
Okay.
Et pour ce qui concerne les prix Nobel scientifiques, où on a encore moins de femmes que dans les autres genres de prix Nobel, ces deux femmes à qui on a décerné un prix Nobel en même temps, ce sont donc en chimie les 6e et 7e femmes à recevoir le prix Nobel depuis la création, de la récompense.
Il y a plus d'un siècle, donc.
C'est donc, ça. Et donc voilà, très, très content de cette nouvelle. Et puis moi, c'est quelque chose que je continuerai à suivre avec assiduité. Et voilà, enfin, à l'année prochaine pour que je vous parle des prochains prix Nobel des aux femmes. Moi, je suis très content de cette nouvelle. Je passe la parole à Anaïs pour ta nouvelle aussi.
Ouais. Du coup, on disait tout à l'heure que la justice ne faisait pas son travail. Eh bien, si, la justice a fait son travail dernièrement. Donc, je vais vous partager cette bonne nouvelle. Je vais vous parler de danse classique, puisque Gaëlla Pujol, qui est une soliste du ballet de Nice, qui a été congédiée en 2018 après une grossesse et qui accusait la régie municipale de discrimination, a gagné son procès devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif a jugé que les éléments produits par la requérante sont suffisants pour faire présumer l'existence d'une discrimination fondée sur sa maternité. Le tribunal s'appuyait notamment sur les témoignages de plusieurs autres danseuses qui avaient subi des pressions au moment d'une grossesse. Et donc, la danseuse a été réintégrée au ballet de Nice. Elle a donc récupéré sa place. Donc, c'est vraiment super parce que, bon, dans la danse classique, il y a vraiment une grosse pression sur les danseuses qui souhaitent à la fois mener une carrière et avoir un enfant. Ou plusieurs d'ailleurs. Voilà, déjà en février 2020, il y avait l'Opéra de Lyon qui avait licencié son directeur de ballet qui était là depuis plus de 30 ans. Et qui avait été condamné pour le non-renouvellement d'une danseuse au retour de congé maternité. Il avait eu un entretien avec elle qu'elle avait enregistré, où il lui disait « Je t'aime beaucoup, beaucoup comme fille, je te trouve très gentille, que t'es jolie, que t'as un joli corps. Mais je pense que si entre 29 et 34 ans, tu as fait pas mal, mais pas beaucoup, c'est pas entre 35 et 40 ans que tu vas faire plus, en plus avec un enfant, parce que tu es plus occupée et tu as des choses à faire. » Si ça, c'est pas de la discrimination, les gars, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc les choses commencent un petit peu à bouger dans le domaine de la danse classique professionnelle. Et je trouve que c'est une très bonne chose.
Tout à fait.
Anaïs, voulais-tu parler aussi de la newsletter de Bédélire? Je crois que tu l'as retirée du document partagé.
Ce sera dans mes recommandations culturelles. Excuse-moi.
Mais oui, je voulais absolument qu'on en parle. Donc,
mais on va en parler.
Impatient de la chronique prochaine. Toutefois, désormais, on a fait le tour, donc des bonnes nouvelles, et donc on peut clore la rubrique « Tout n'est pas perdu ». On va faire une troisième et dernière pause musicale. Cette fois-ci, c'est moi qui ai suggéré le titre. Je suis content et surpris qu'on n'ait pas déjà programmé Izia dans notre émission, puisque c'est voilà, une artiste que j'aime beaucoup, qu'on aime beaucoup. Anaïs, tu m'as partagé que tu aimais beaucoup ce qu'elle faisait aussi.
Ouais.
Et là, en l'occurrence, c'est un titre de son nouvel album qui s'appelle « Citadelle », et le titre se fait en featuring avec Jeanne Haddad, que j'aime beaucoup aussi. Et donc là, on va s'écouter Chevaucher, toujours sur les ondes de Radio Campus Tour, 99.5 FM, ou radiocampustour.com pour nous écouter en ligne et en podcast. C'est Ménage-toi Simone, à tout de suite, on revient pour la suite et fin de notre émission. Sans sourire. Isia sur radiocampustour.com ou... Pardon. Que disais-je ? Oui, le son continue. on extrait les musiques un petit peu à l'arrache et du coup, il y a des fois des rallonges dans les clips, les extraits musicaux qu'on sélectionne et là, il y a une suite incompréhensible. Mais bref, je reprends. C'était Isia en featuring avec Jeanne Haddad, Chevauchée. Jeanne Haddad d'ailleurs, grand hasard, qui est passé dans mon émission radio préférée vendredi dernier. Et donc, comme j'écoute avec quelques délais de décalage, bah, je l'ai écouté en venant à la radio. Et voilà, c'est par Jupiter, mon émission préférée, si vous demandiez, posez la question. Voilà, j'assume totalement être un bobo gauchiste.
C'est exactement ce que je pensais, je me suis dit, est-ce que je le dis ou est-ce qu'il va se vexer? Mais non, tu as bien conscience de ta condition, donc c'est parfait.
J'assume. Non, mais c'est surtout, voilà, ça me donne l'occasion de programmer Isia et Jeanne Haddad sur Radio Campus Tour, et donc j'en suis très content.
Je vanne Merlin, mais j'adore Guillaume Meurice, hein, donc je me mets dans le même sac que Merlin.
Voilà. voilà, donc Ménage-toi Simone, suite et fin, numéro d'octobre 2020 sur les ondes de Radio Campus Tour, radiocampustour.com pour nous écouter en podcast et en ligne. Donc la fin de notre émission, ce sont les recommandations culturelles, bien sûr. Donc à la suite de la rubrique Tout n'est pas perdu, où on dit les bonnes nouvelles, cette fois-ci on dit ce qu'on a consommé de culturel ce mois-ci ou les mois derniers et que l'on souhaite recommander à nos éditeurs et nos éditrices. Ils aient de quoi patienter jusqu'à notre prochain numéro, donc qui sera en novembre. Nous l'espérons, novembre, donc toujours le troisième samedi du mois pour la diffusion. Et on retrouve le podcast dans ces eaux-là, dans ces environs-là, juste après la diffusion sur radiocampustour.com. Une nouvelle fois, on a un truc chacun et chacune. Je vais envoyer la parole à Anaïs, justement, parce que j'ai un peu...
Alors, j'en ai trois, mais comme d'hab, j'arrive pas à me... Voilà, Louise parle beaucoup et moi, j'arrive pas à choisir mes recommandations culturelles.
Chacun ses travers.
Alors, le premier truc que je viens de terminer, là, j'ai fait ça de cette semaine, que je voulais vous partager, c'est un podcast qui s'appelle « Ou peut-être une nuit » de Charlotte Pudlowski. C'est un podcast produit par Louis Média. Il y a 6 épisodes qui sont dispo un peu partout. Moi, je l'ai écouté sur Deezer, en l'occurrence.
C'est dispo sur Spotify aussi.
Voilà, je pense que c'est facilement trouvable. C'est un podcast en fait dont j'ai entendu parler une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois par des gens que j'estime beaucoup. Et je me suis dit, bon, je crois qu'il faut vraiment que je l'écoute. De quoi ça parle? Ça parle d'inceste. Donc là, direct, blablabla, j'ai pété l'ambiance. En fait, Charlotte Pudlowski a découvert, quand elle était assez âgée, que sa mère a été victime d'inceste de la part de son grand-père. De son père, donc du coup du grand-père de la journaliste Charlotte Pudlowski. Et en fait, passé le choc, elle s'est demandé comment est-ce que ce secret avait pu tenir aussi longtemps, comment est-ce que ce secret l'avait impacté du coup indirectement dans sa construction. Et elle a commencé à se poser plein de questions. Et donc de toutes ces questions a résulté un podcast du coup en 6 épisodes. C'est vraiment passionnant, j'ai appris plein de trucs. Ça alterne des témoignages de personnes qui ont été victimes d'inceste, mais aussi beaucoup d'entretiens avec des scientifiques et des psychologues, psychiatres, etc. Il y a notamment Muriel Salmona qui traite beaucoup des violences. On a déjà parlé d'elle, elle parle beaucoup des violences faites aux femmes et du coup elle a un discours qui est très intéressant sur la différence notamment entre un pédophile et un pédocriminel. Les pédophiles ne passent pas tous à l'acte et les pédocriminels ne sont pas tous des pédophiles à la base. C'est plutôt une histoire de domination à la base et de proie d'opportunité et non pas une pédophilie qui était présente à la base. Voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Alors clairement, c'est pas hyper jojo, je vais être honnête avec vous, hein, mais
on s'en doutait.
Mais voilà, c'est hyper intéressant. Ça m'a vraiment ouvert les yeux qu'en fait, il y a une statistique toute bête, mais en fait. Elle dit que sur une classe d'élèves de CM2, il y a 3 enfants qui sont concernés dans la classe statistiquement. Wow. En fait, c'est énorme. Et donc, ça veut dire que nous, on connaît forcément des gens qui ont été touchés par ça. Et du coup, elle pose vraiment la question à la fin de comment la société tout entière se construit en parallèle avec ce secret dont personne ne parle. Et du coup, c'est hyper intéressant. Ça traite aussi du discours masculiniste. Enfin bon, bref, c'est vraiment génial. Donc, je vous le surconseille vraiment. C'est 6 épisodes de 45 minutes, ça passe hyper vite. Ma deuxième reco, c'est une bande dessinée, un livre, comme d'habitude, hein, je ne me referai jamais. La bande dessinée s'appelle « Baiser après MeToo », Lettre à nos amants foireux. C'est un livre qui a été réalisé en collaboration entre Ovidie et Digli. Donc Ovidie à l'écriture, on la connaît, Ovidie on la présente plus, elle a fait tellement de reportages hyper intéressants, de documentaires, voilà. Elle
on
est
a
super.
Déjà parlé
de
recommandations culturelles, on ouais, a déjà tout conseillé à fait. Plusieurs fois.
Et Digli, qui est donc une autrice de bande dessinée que j'aime beaucoup aussi. Ce livre, c'est quoi? En fait, c'est une série de lettres plus ou moins fictive, plus ou moins inspirée de la réalité, mais clairement, je pense que tout le monde se reconnaît dans au moins une lettre. Lettre qui est écrite du coup à destination donc de nos amants foireux. Le truc, c'est de se poser la question de comment... Vraiment, c'est le titre, hein. Comment baiser après MeToo, quoi. Qu'est-ce que ça a changé sur nos sexualités, et du coup, toutes les questions que ça peut poser. Et du coup, chaque lettre s'adresse à une personne différente. Donc, on a par exemple lettre à celui qui pense que maintenant on ne peut plus draguer. Hein. Celui-là, on l'a rencontré. Lettre à celui qui ferme boutique après avoir éjaculé. Nous avons également lettre à celui qui m'a dit que je n'étais pas sexy. Enfin bref, il y a plein de trucs. C'est illustré en plus d'une manière très intelligente, comme à chaque fois, par Digli. Et voilà, je pense que, ouais. Pour des personnes qui sont peut-être très militantes ou très renseignées sur le sujet, ça peut enfoncer un peu des portes ouvertes, mais j'ai quand même trouvé ça hyper intéressant. C'est assez rassurant et satisfaisant de se rendre compte qu'on n'est pas la seule ou le seul à avoir vécu ces situations-là. Et je pense que ça peut être un bon point de départ pour des discussions avec des gens qui, pour le coup, ne sont pas sensibilisés au sujet. Surtout que MeToo a quand même fait prendre conscience à pas mal de gens qu'ils avaient de la merde dans les yeux et que c'est pas forcément simple de... faire ce travail sur soi. Et du coup, ce livre-là est vraiment pas mal pour ça. Non, je t'en prie.
Je vais juste poser une question. Du coup, ça traite que de relations hétérosexuelles, enfin, en même temps,
oui,
vu le sujet.
Oui, okay. Prisme hétérosexuel, par contre.
Non, c'est logique aussi, vu le sujet.
Mais du coup, ouais.
Tant que tu parles de cette BD, parce que je sais que tu as d'autres choses à conseiller, moi, ça me fait plaisir de voir une BD qui est titrée comme ça, et surtout qu'on revienne un petit peu sur cet événement sociologique qui a été MeToo. Et ça me fait plaisir dans le sens où, en fait, je vois de mon vivant des choses qui s'inscrivent dans l'histoire sociologique de notre pays, et de se dire que MeToo, on en parlait encore dans notre discussion, il y a vraiment des répercussions. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 4 ans, 5 ans peut-être?
3 ans, je crois.
Ouais, et le temps passe, et c'est quand
2017,
même,
je crois.
C'est quand même quelque chose qui fait référence, qui... Enfin voilà, c'est vraiment, je pense, c'est... Dans sa propre mesure, mais c'est quelque chose qui fait date et qui sera inscrit, je pense, dans l'explication de l'avancée et des progrès concernant l'égalité femmes-hommes en France. Voilà, il y a eu MeToo.
En France et dans le monde entier, d'ailleurs,
je pense. En France et dans le monde, ouais. Et voilà, voir ce genre d'ouvrage, et puis en plus, voir qui l'a fait, qui est derrière, moi, ça me fait très plaisir de sentir que les choses bougent et que les choses changent de ce point de vue-là.
Ouais, c'est vraiment une super bande dessinée que je vous conseille, et je voulais vous... une phrase qui m'a marquée dans la lettre à celui qui pense que maintenant on ne peut plus draguer. L'autrice dit « Et pourtant il va bien falloir vous y faire, sinon que croyez-vous, d'autres prendront votre place, des moins lourdeaux que vous, des types qui auront su se détacher des images caricaturales de masculinité que vous persistez à soutenir, car nous continuerons de baiser, ça c'est sûr. »
Yes.
Voilà.
Très bien.
Et donc, comme je parle de BD, je vais parler de ma librairie d'amour qui s'appelle le BD-Lire, chez qui je vais claquer des choux tous les mois. Qui a lancé ce mois-ci la Zouze Letter.
Trop bien.
Et qui est donc une newsletter féministe avec des œuvres féministes. Vous pouvez vous inscrire, ça coûte rien évidemment, et vous recevez tous les mois du coup un petit condensé dans votre boîte mail de toutes les œuvres ou qui traitent de ce sujet-là ou avec que des meufs dedans. Voilà, c'est évidemment trop bien. Et globalement, à BD-Lire, il y a un super rayon féministe, c'est là du coup que j'ai trouvé la BD dont je viens de parler, et à chaque fois que j'y vais pour acheter un truc, et puis en fait je suis là, ah ouais mais ça, puis ça, voilà,
c'est ça.
Donc
il faut y rentrer avec un budget,
c'est ça, c'est ma marotte, hein, comme disent les gens d'un certain âge, voilà, et j'ai fini là-dessus.
Je me permets de rebondir parce que c'est un lien direct, puisque alors déjà oui, big up à BD-Lire et à leur rayon en effet féministe. Moi je vais là à chaque fois que je ne sais pas quoi offrir à quelqu'un, je vais là-bas, voilà, c'est simple, surtout pour des copines ou des personnes que je sais être intéressées par le féminisme, je sais que je vais là-bas, et en plus les gens qui y travaillent sont de très bons conseils. Et justement, une fois j'y suis allée et on m'a conseillé une BD qui s'appelle Flippette et Vénère, et c'est de celle-là que je veux parler.
Transition incroyable.
Mais vraiment, ça tombe, c'était même pas calculé, mais c'est magnifique. Donc Flippette et Vénère, c'est une BD qui a été réalisée, illustrée, écrite par Lucrèce Andréae. Donc désolée, c'est pareil si j'écorche le prénom, qui a aussi reçu il y a 2 ans je crois le César du meilleur court-métrage d'animation, donc c'est pas n'importe qui. C'est Flippette et Vénère, c'est un bouquin qui je pense aujourd'hui fait partie de mes BD préférées, vraiment il est trop bien. C'est sur l'histoire de deux sœurs qui sont très différentes. L'une est un peu punk, anarchiste, très très énervée, donc vénère, contre la société, et l'autre est un peu bobo, un peu j'ai des valeurs mais je sais pas trop comment les appliquer dans la vie, et en fait j'ai juste envie d'être tranquille, donc ça c'est Flippette. par la force des choses, elles se retrouvent à devoir passer du temps ensemble. Et donc, elles confrontent un petit peu leurs opinions. Mais c'est un bouquin qui parle de comment on donne du sens à son existence, comment on fait pour être jeune quand on a des convictions, et comment on existe, en fait, tout simplement. C'est très touchant, c'est très joli, les personnages sont hyper attachants, voilà, c'est trop bien. Et donc c'était une recommandation de quelqu'un à Bédélire, et c'était une très bonne recommandation, et je vous conseille donc à mon tour ce bouquin, qui est super et qui se lit très facilement, qui est très accessible, et qui est accessible qu'on soit militant ou pas d'ailleurs, parce que ça parle un petit peu de militantisme, puisque donc il y a une des deux sœurs qui est anarchiste, donc on parle forcément un peu de politique. Et à la fois, c'est accessible pour des gens qui ne le sont pas, et à la fois pour moi qui le suis et qui parfois ai tendance à trouver que ça va pas assez loin, etc. Ouais. Et comme là, on parle pas directement de ça, ça se laisse lire tout seul et c'est pas du tout décevant. Et voilà, je vous le conseille.
Trop bien. On va finir par se faire sponsoriser par Bédélire.
Franchement, moi, je vais surtout aller claquer encore un plus d'argent. Donc, c'est parfait. Du coup, je te transfère à mon banquier si jamais on fait ça.
Je pense qu'on peut s'inspirer d'une autre émission qui est aussi diffusée le samedi sur Radio Campus Tour. Il s'appelle, je l'ai juste sous les yeux, c'est Coup de Bulle, une émission radio qui parle de BD. Et si c'est possible, même si la BD en soi, ça n'a pas l'air très radiophonique, on peut parler BD, à la radio. Et moi, je vous conseille cette émission. Donc, cette émission de...
Le 9e art, la BD. Voilà.
Exactement. Voilà. Et pourquoi pas, moi, je rappelle que Radio Campus Tour met à disposition de ses adhérents un studio mobile. Pourquoi pas aller se faire une émission dans Bédélire, qui est vraiment un bel endroit en plus.
Est-ce que tu penses qu'on peut se faire enfermer à l'intérieur et passer la nuit dedans?
Aïe, aïe, aïe.
Ça serait trop bien.
Je crois que c'est mon rêve, ça, en fait.
Mais même nous, peut-être qu'un jour, on peut se faire un épisode spécial littérature féministe. Hein.
Alors, bah, du coup, on prend 4 heures. Et...
Oui, non, mais ça peut s'organiser. Bon, bref.
On fera ça en dehors, devant les micros.
On discutera ça en off.
D'autant qu'on est bientôt à la fin. Donc, sûrement qu'on discutera de ça dès qu'on aura coupé les micros. Mais reste encore ma recommandation culturelle. Alors, c'est marrant, enfin, je le dis d'office. Je vais en parler plus longtemps que ce que demande ma recommandation culturelle à être visionnée. En fait, ma recommandation culturelle, c'est une vidéo YouTube très très courte, qui fait moins de 5 minutes, et qui est produite par Golden Moustache, donc vous connaissez sûrement si vous allez sur YouTube et que vous vous intéressez à la création française et francophone. Là, c'est une vidéo très courte qui met en scène une personne qui a vraiment existé, une femme qui s'appelle Alice Guy, et qui est, selon... une personne forcément oubliée de l'histoire, comme beaucoup de femmes créatrices et innovatrices en leur temps. Mais voilà, Alice Guy, aussi loin qu'on puisse rechercher, Alice Guy est la première personne qui s'est mise à faire de la fiction au cinéma. Voilà, on est au tout début de l'industrie du cinéma. Les Frères Lumière ont tout juste révélé leur création, donc, qui s'appelait encore à l'époque le cinématographe. Et Alice Guy, voilà, était la secrétaire des Frères Gaumont. Les Frères Gaumont qui étaient les premiers à industrialiser et à distribuer très largement l'invention des Frères Lumière pour ensuite faire du cinéma. Mais à l'époque, et ça nous paraît vraiment... On l'imagine pas si on ne connaît pas l'histoire de cette femme-là, mais vraiment au début de cette industrie-là, c'était vraiment quelque chose qui était distribué dans l'optique de capturer le réel, de filmer le quotidien, faire des documentaires tels qu'on en fait encore aujourd'hui. Mais personne avant cette femme-là, cette Française, ne s'est dit on peut raconter des histoires comme on le fait avec la littérature, comme on le fait avec la musique, et faire de la fiction avec cette boîte merveilleuse qui capture des images réelles. Et voilà, donc une vidéo très courte qui la met en scène justement au tout début lorsqu'elle soumet son email aux frères Gaumont, qui la prennent pas trop au sérieux. Après, je vais pas vous spoiler la fin de la vidéo parce qu'elle est vraiment très bien mise en scène. C'est aussi pour ça que je vous la recommande. Les décors sont très beaux, les costumes sont très beaux.
Je l'ai pas encore vu, mais je sais que c'est Anis Rally et Aude Goni-Goubert, je crois, qui sont à l'origine de cette vidéo. Et
oui,
voilà, que des personnes qu'on aime beaucoup, du
coup. Exactement.
Voilà. Et justement, enfin,
moi, je tenais à le mentionner.
Moi, j'ai fini cette vidéo et je suis tout de suite allé googliser le nom de Alice Guy. Et justement, Aude Goni-Goubert a fait un épisode de Virago sur cette personne-là. Parce que c'est vrai qu'elle est exceptionnelle, parce que du coup, elle a réussi quand même, malgré tout, à avoir un accord de la part de Gaumont pour se servir de leur cinématographe pour filmer des trucs. Elle s'est mise à filmer, elle a fait son truc tout seul, elle a vraiment monté une industrie, monté quelque chose de semblable à Hollywood avant même qu'Hollywood existe. Et voilà, elle a réussi à percer en Amérique, et donc elle est partie s'installer en Amérique, donc je le rappelle, avant la création d'Hollywood. Et voilà, elle est partie en Amérique et ses créations qu'elle a fait en France sont finalement tombées dans l'oubli. Elles ont même été... on l'a dépossédée de ses œuvres pour finalement les attribuer à des réalisateurs hommes. qui commençait, donc qui suivait sa trace dans cette nouvelle industrie et cette nouvelle façon de faire du cinéma. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on l'a oublié, c'est parce que une fois qu'elle est partie aux États-Unis d'Amérique, on a attribué ses œuvres à quelqu'un d'autre. Mais voilà, de son vivant, entre ce qu'elle a produit, écrit, réalisé, c'est plus de 700 œuvres, 700 histoires, 700 créations qui sont maintenant dans le domaine public. Et je suis sûr que lorsqu'on va rechercher, si on va rechercher dans la banque de données de l'INA, on peut encore retrouver voilà, des mises en scène et des films de Alice Guy. Oh, et voilà, donc à la toute fin de la vidéo, et là on voit la patte, la signature de Haute-Gonie Goubert. À toute fin de la vidéo, il y a des extraits de ce qu'a pu faire Alice Guy, et justement, en plus, il y avait des commentaires comme quoi, il y a des commentaires sur la vidéo comme quoi, en fait, elle aurait pas seulement commencé à faire de la fiction, mais elle aurait aussi essayé plein de trucs novateurs, comme elle a commencé, c'était la première bien avant que ça soit envisageable, technologiquement parlant, elle a commencé à coloriser ses images, alors que le cinématographe venait d'être existé, où ça faisait à peine quelques années, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo qui se regarde très bien, très facilement, elle est très courte, elle est très jolie, très bien réalisée, et elle m'a vraiment donné envie de creuser un peu le sujet et de rendre un petit peu ce que Alice Guy mérite comme mémoire et comme récompense, en fait, et comme mérite. Voilà pour moi, donc voilà, forcément j'ai parlé plus longtemps que ce que dure la vidéo. Et voilà, et un dernier argument pour aller voir cette vidéo, il y a Kian Kojandi avec des cheveux.
Incroyable.
Bah, je crois que ça y est, je vais voir cette vidéo voilà. Immédiatement dès la fin de cette émission.
Avec cet argument.
Petite anecdote pour finir ma recommandation culturelle et donc cette dernière rubrique qui va donc clore notre émission. On est dans les temps, yes.
Allez.
C'est très rare.
Donc il me reste donc à vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, à remercier Anaïs, Paul et Louise pour être venus participer à cet épisode de rentrée.
Et on remercie Merlin pour son rôle de médiateur et de gestion du temps, comme d'habitude.
Avec grand plaisir, on est très content de revenir pour une troisième saison.
Oui.
Le réseau de Simone aussi reprend de l'activité, donc, notamment avec l'arrivée de Service Civique Oblige qui redonne chaque année un nouveau souffle et un nouvel élan à notre collectif. Donc voilà, l'organisation interne reste à définir, sûrement qu'on va changer des trucs, mais ça se passera toujours Oblige. Toujours avec sûrement une activité mensuelle, un rendez-vous mensuel Oblige. Donc suivez-nous sur les réseaux, c'est le réseau de Simone sur Facebook. Et puis on a toujours notre blog aussi avec nos articles écrits par des membres du réseau. Nos articles sur le blog et puis nos podcasts donc sur Radio Campus Tours. Radio Campus Tours qu'on remercie aussi pour la production de nos émissions, puisque c'est eux qui nous fournissent le studio, la table de mixage, les micros, etc. Et c'est eux qui nous hébergent à titre gracieux sur leur site internet qui héberge notre podcast. Donc voilà, merci à eux. Au mois prochain, voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours sur cet épisode et puis l'ensemble de ce qu'on a pu dire. Hein. Voilà, tout se retrouve sur internet et voilà, aussi longtemps qu'on peut, on assume ce qu'on dit dans cette émission, même si voilà, on est tout novice que nous sommes. Et n'hésitez pas à nous faire des remarques, des critiques et puis pourquoi pas à nous rejoindre si vous souhaitez faire de la radio. D'ailleurs, c'était la première radio de Paul. Bravo.
Très sympa, merci beaucoup.
Bravo,
beaucoup
Paul.
Aimé.
Et puis merci, tu seras bien sûr le bienvenu sur les prochains numéros, les prochains épisodes. Allez, on vous laisse. Donc vous retrouvez la programmation du samedi classique. Référez-vous à la grille des programmes sur radiocampustour.com. Voilà, allez, j'arrête de parler. Je remets le générique pour la fin. On se dit au revoir et puis au mois prochain.
Salut.
Salut,
salut, ciao.
Ah, les bonnes femmes. Tu préfères voir tes fesses que ta gueule. Ils sont plus agréables à regarder.
Justement, est-ce que je pourrais avoir une autre de vos petites putes asiatiques? La mienne est morte.
Ménage-toi, Simone.